Bonjour chers fidèles d'IDFM et en particulier de ce rendez-vous compte. Un nouveau numéro spécial chronique avec nos chroniqueurs et nos chroniqueuses en deux mots attitrés avec qui nous formons une belle équipe grâce à laquelle nous ne nous sentons jamais seuls. Ça tombe bien parce que la solitude, c'est justement le thème choisi en commun pour ce mois et chacun va la traiter évidemment selon sa personnalité propre. Alors on commence par notre chroniqueuse ex-baldoisienne devenue méditerranéenne, Michèle Saufroy-Paré, qui nous propose une vision particulièrement dérangeante de la solitude, venue du Japon mais qui est aussi présente en France.
Que se passe-t-il? Je n'y comprends plus rien. Mon fils, mon petit, autrefois si souriant, si rayonnant, si enjoué. Mon grand ado maintenant. Il s'éloigne de moi, de tout ce qui nous entoure. J'ai peur. Il vit reclus dans sa chambre, dont il m'interdit presque l'accès. Il s'y enferme, n'en sort que pour engloutir un repas, vite fait, sans un regard, sans un mot, casque vissé sur les oreilles, diffusant une musique assourdissante. Les yeux rivés sur son smartphone, distillant en continu des images et des clips sur TikTok. J'en ignore le contenu, bien entendu. Un monde dont je suis exclue. Plus aucune communication entre nous. Il vit en solitaire, en ermite. Sa chambre est son seul refuge, son cocon, son antre. Mais peut-on encore parler de solitude, ou bien plutôt d'isolement? J'ai peur. Ses résultats scolaires, naguère si satisfaisants, se sont effondrés. Il a commencé par sécher les cours, de plus en plus fréquemment. Il ne va même plus au lycée maintenant. Il ne parle plus à personne. Plus personne ne vient le voir. Il n'a plus d'amis. Ses frères et sœurs, son père, toute la famille, des étrangers pour lui. Il vit dans son monde. Qu'a-t-il bien pu se passer? Suis-je responsable de ce brusque changement? Je n'ai rien vu venir. Que lui est-il arrivé qu'il n'a jamais osé me révéler? Ai-je exercé une trop grosse pression sur lui? Quelles influences a-t-il subies? Pourquoi vit-il muré dans cette solitude inexpliquée et inexplicable? A-t-il peur de l'avenir? Se sent-il abandonné? Rien. Il ne me dit rien. Plus aucune communication entre nous. Je me sens aussi seule et démunie que lui. Pourquoi vit-il cloîtré dans sa chambre? Dans cette prison de solitude où il s'est enfermé lui-même, avec pour seule compagnie ses écrans, ses jeux vidéo, jour et nuit. Il vit dans un monde virtuel dont lui seul a la clé et qui nous déconcerte. Suis-je responsable de cette lente métamorphose, de cette chute inexorable? De cette déchéance. Est-elle le résultat de la mutation de notre société, de ce monde où tout s'accélère? Non, je ne t'ai pas abandonné, mon fils. Je ne t'abandonnerai pas. J'ai peur, peur qu'il ne s'enferme pour des jours, des mois, voire même des années dans sa chambre, comme ces jeunes Japonais victime du syndrome Hikikomori. Chez nous aussi, ça existe. Les paroles d'une vague chanson entendue quelque part tournent dans ma tête. Sont-elles exactes? Peu importe. Mec, t'es seul dans ta vie comme Hikikomori. T'as peur du regard des autres, de ce monde qui t'entoure. T'as peur du rejet des autres comme Hikikomori, t'as pas confiance en toi. Tu t'exclus peu à peu de cette société. Tu t'exclus peu à peu dans un monde reculé. Mon fils est-il condamné à la solitude à perpétuité? Comment le faire sortir de cette prison? Comment le libérer de ce sentiment de solitude, de cette solitude dans laquelle il s'est muré? Comment lui redonner confiance? Lui redonner l'envie de vivre? J'ai peur, mais je ne perds pas l'espoir. Syndrome de la solitude au Japon. Ikiko Mori.
Solitude, tu frappes à ma porte. Toujours là, quand tout s'emporte. Tes bras glacés m'enlacent la nuit. Tu connais mes faiblesses, tu restes une nuit. Mais parfois je trouve dans ton silence un reflet de moi, une étrange présence. Solitude, pourquoi tu danses dans mon ombre? Tu me parles quand le monde s'effondre. Toxique mais vrai, sans toi je ne sais plus qui je serais. Qui je serais. Tu m'offres des mots que personne n'entend. Un miroir brisé, cruel et troublant. Solitude, complice et ennemi. Je me perds en toi, tu me voles mes nuits. Et si demain tu disparaissais, est-ce que je pourrais encore aimer? Ou suis-je condamnée à ton étreinte, à ce vide qui me pince en teinte? Solitude, pourquoi tu danses dans mon ombre? Tu me parles quand le monde s'effondre. Entre nous c'est toxique mais vrai. Sans toi je ne sais plus.
IDFM, 98FM.
Voilà, nous sommes toujours bien sûr IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte consacré à la solitude. On écoute un somptueux poème de Paul Éluard qui s'intitule « Notre vie », mis en voix non moins somptueusement par Thierry Leclerc, chanteur, poète et acteur saint-loupien.
Notre vie, tu l'as faite, elle est ensevelie. Aurore d'une ville un beau matin de mai, sur laquelle la terre a refermé son poing. Aurore en moi, 17 années toujours plus claires, et la mort entre en moi comme dans un moulin. Notre vie, disais-tu, si contente de vivre et de donner la vie à ce que nous aimions. Mais la mort a rompu l'équilibre du temps. La mort qui vient, la mort qui va, la mort vécue, la mort visible boit et mange à mes dépens. Morte, visible nouche, invisible et plus dure que la faim et la soif à mon corps épuisé. Masque de neige sur la terre et sous la terre. Source des larmes, dans la nuit, masque d'aveugle. Mon passé se dissout. Je fais place au silence.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial solitude. Après le coup de cœur de Michel Paré-Saufroy, le coup de gueule de Marine. Marine Gauvin, notre chroniqueuse illustratrice, freelance et écologiste, qui croque nos différents invités à chaque émission. Alors Marine, ton coup de gueule.
Il y a quelques semaines, j'ai participé à un webinaire d'une scientifique spécialiste des albatros dans l'optique de suivre sa formation pour devenir leader d'envergure dans l'écologie. Rien que ça. Au début, j'étais plongée dans un bain de béatitude. J'étais entourée de personnes qui faisaient des métiers formidables, beaucoup autour de l'écologie. La présentatrice était solaire et nous parlait de son programme d'envergure pour une écologie joyeuse et solidaire de manière convaincante qui me boostait carrément. Et puis est arrivée la question, toujours épineuse, de l'argent. Et là, c'est la douche froide. Car figurez-vous que cette formation n'est pas finançable par le CPF. Et savez-vous pourquoi ? Et parce que sa formation a été jugée trop originale. Et voilà, Bah, comme toujours. Dès qu'une personne ou qu'un groupe de personnes présente quelque chose qui sorte des clous, qui propose aux gens de se former et avoir des clés de compréhension en matière d'écologie, étrangement, ces personnes sont mises au ban, écartées des systèmes d'aide au financement mis en place. Sachez que je n'ai jamais pu utiliser mon CPF, qui s'élève pourtant à une jolie somme non négligeable, pour ces mêmes raisons. Toutes les formations que j'ai suivies et payées de ma poche ne sont jamais financées par le CPF. Et ça me met dans une colère noire. Surtout que, comme me l'a si justement rappelé une proche, nous cotisons à ces droits à la formation et nous n'avons même pas le droit de les suivre. Originaux qui souhaitaient changer le monde de manière positive et joyeuse, passez votre chemin. Ici, nous n'acceptons que les pessimistes, les capitalistes, les technocrates et les amoureux de la Startup Nation. Laissez-nous biberonner les gens au monde d'avant! Ensuite, la seconde solution était de passer par les formations OPCO. Alors, c'était bien la première fois que j'entendais parler de cet acronyme et j'ai donc fait quelques recherches pour voir de quoi il était question. Ce sont donc des formations professionnelles proposées par les entreprises. Deuxième douche froide. À croire que j'aime ça. Il paraît que c'est bon pour la santé et que ça stimule l'organisme. Mais pour le coup, ces douches froides-là, elles ne sont pas bonnes pour mon moral. Parce que, ayant le statut d'artiste-auteur, notre fonctionnement est un peu particulier. Mon organisme de formation auquel je dépense s'appelle l'AFDAS. Et que croyez-vous qu'il soit arrivé à l'AFDAS cette année ? La baisse drastique des subventions, bien entendu. L'AFDAS vivote et les artistes trinquent. Donc ça veut dire incapacité de proposer des formations finançables aux artistes-auteurs qui cotisent pourtant. Tout va bien dans le meilleur des mondes et c'est toujours la même rengaine. Étant une artiste au RSA, vous imaginez bien que débourser plus de 1000 euros de ma poche pour une formation est une opération suicide, même si cette formation a l'air incroyable et juste ce qu'il me faut. J'en ai marre que les pauvres soient toujours sur la touche, que ceux qui ont les moyens peuvent se le permettre. Mais surtout, j'en ai marre de cette course d'obstacles pour tous les citoyens qui ont envie de changer de modèle, de construire un futur plus lumineux, moins destructeur et cancérigène que celui dans lequel nous vivons. J'en ai marre de me prendre des murs sur la tronche. J'en ai marre de me sentir étriquée, empêchée. J'en ai assez de me sentir si peu soutenue par l'État, le système. Nous, artistes, on nous écrabouille. Nous devons nous battre sans cesse pour quelques miettes. Quelques miettes d'argent, quelques miettes de reconnaissance, quelques miettes de formation. Toujours des miettes, jamais la miche entière. La solitude me ronge comme un acide. Ma colère également. La pauvreté, mais quelle punition! Et être artiste pauvre, la double peine. Tout est de ma faute, bien entendu. J'aurais pu choisir de travailler pour le 440. Pauvre de moi, quel abruti j'ai été. La liste est longue de toutes ces aides qui sont censées exister pour aider les plus démunis, mais qui, dans les faits, ne sont pas versées. Les belles paroles habillent le vide de nos institutions. Pour combler cette solitude toujours galopante dans mon quotidien jamais serein, j'essaie de me rattraper aux branches le plus possible. Celles qui donnent des fruits colorés, juteux. J'essaye de trouver des ports d'attache accueillants, même pour quelques heures. La culture et l'écologie voguent sur des radeaux troués. On essaye de trouver des solutions, de se serrer les coudes, de ne pas sombrer et de réussir à garder espoir et surtout la tête haute. Les sociétés de demain ne doivent bien ça.
Voilà, merci Marine pour ce coup de gueule qui nous laisse sans voix. C'est la période de Noël, Marine. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à tes productions, tes œuvres ?
Et bien sur ma boutique en ligne qui est disponible sur mon site internet www.marinegauvin.com. Vous pouvez aussi me trouver au Quai des Marques de Franconville à la boutique de créateurs Signature d'Artisan, ainsi que les week-ends du 6 et 7 décembre au Puce de l'Illustration à Boulogne, je crois, et au marché d'Aubonne aux alentours du 14 décembre, je ne sais plus les dates exactes de ce week-end.
Voilà. Merci Marine, on ne te laissera pas seule, ne t'inquiète pas. Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial solitude. Et voici Gérard qui pour une fois est venu sans son chat. Gérard Poêtre, alors le chat ?
Le chat justement a souhaité rester tranquille chez lui.
Tout seul ?
Pas complètement seul on va dire.
D'accord. Alors je crois que tu vas nous expliquer que chacun peut se payer un moment de solitude.
Voilà, alors... Déjà, je me suis posé la question par quel versus aborder la solitude ? Recherche d'indépendance, allergie à la foule ou sentiment d'isolement, d'abandon ? Solitude choisie ou solitude subie ? Quelle est la part du besoin des autres et du besoin de soi ? Dans cette société d'addiction à la communication, comment éviter la stigmatisation du solitaire. Nietzsche disait « Souffrir de la solitude est mauvais signe. Je n'ai jamais souffert que de la multitude. » Que faire alors quand les autres n'acceptent pas votre solitude ? Mon ami fictif va vous raconter son choix de la simulation. Je menais une vie ordinaire, certains diraient plate, ennuyeuse, monotone. Je ne recherchais pas les contacts, je faisais peu de rencontres, je ne sortais que pour des raisons vitales. En deux mots, je me suffisais à moi-même. Mes quelques amis, toujours les mêmes depuis des décennies, me faisaient le reproche. Tu t'encroûtes, tu vieillis prématurément, tu te coupes du monde. Ils voulaient mon bien, mais ce discours récurrent m'irritait. Me séparer d'eux aurait toutefois signifié une désertion du monde des humains. C'était une frontière que je ne voulais pas franchir, mais m'intégrer à nouveau dans ce monde postmoderne représentait un effort qui me dépassait. Je trouvais la parade en leur annonçant soudainement que j'avais décidé de faire un voyage, un long voyage de plus d'un mois. Je leur dis que j'avais quelques vagues idées de destination, mais que je partais à l'aventure. Ça m'évita de fournir des indices précis ou d'esquiver des questions gênantes. Je fermais la maison, ce qui me faisait une impression bizarre, puisque certains volets étaient restés immobiles depuis leur installation. Au bout de 5 ou 6 semaines, je rouvris toutes les portes et fenêtres. Je me mis à balayer toutes activités destinées à montrer à mes quelques amis que j'étais de retour. Bien évidemment, ils se précipitèrent pour voir si j'étais intact, épanoui, si j'avais éventuellement subi une mutation intérieure qui aurait signifié mon retour au monde civilisé. Ils furent d'abord étonnés que je n'ai pas bronzé, voire que je sois plus pâle qu'avant mon départ, que je n'ai pas de photos à montrer. J'ai argué d'une panne de mon vieil appareil, mais leur certifia que mon récit de voyage vaudrait mieux que de mauvaises photos. J'ai fait pratiquement un tour d'Europe, ai-je annoncé, ce qui ne manqua pas de les impressionner. J'ai commencé par Naples, voir Naples et mourir, vous connaissez l'expression. J'ai rencontré 2 jeunes femmes qui m'ont fait visiter les quartiers pauvres, le Rione et l'Uzzati. Un des amis me demanda « T'es allé au Pompéi au moins ?» Je répondis que je n'ai pas pu entrer sur le site qui est en restauration. Mais j'avais trop chaud en Italie, alors je suis remonté vers le nord, jusqu'à l'Autriche. Non pas à Vienne, plutôt dans les Alpes, au frais. Au bout de quelques jours, les montagnes étaient devenues angoissantes. J'ai continué mon périple. Un bus de touristes passait sur l'autoroute. Je montais sans connaître la destination. C'était Vilnius, en Lituanie. Je suis descendu au hasard dans un village de la campagne lituanienne, Pienagalis. J'ai sympathisé avec le vieux Jonas qui se reposait à la station. Il m'a même invité dans sa maison forestière. C'était une solitude partagée. Une autre amie interrogea en souriant « Tu parles lituanien ?»« Oh, on se débrouillait avec un peu d'anglais, assurai-je. » Mes amis étaient sceptiques car ils connaissaient mon niveau d'anglais, mais je me hâtais de passer à l'étape suivante. Le rêve de Jonas était de rejoindre Paris à pied. Je l'ai accompagné pendant plusieurs kilomètres, mais je ne voulais pas rentrer directement à Paris. Alors il me conseillait de passer quelques jours sur la Baltique. J'ai entendu rugir une sirène sur le port de Riga. Je me suis précipité. C'était un ferry pour Stockholm. Il y avait peu de monde sur le bateau. Par moments, j'étais seul face à la mer. Je préférais le remous des vagues au remous du monde. « Vous me connaissez, ce n'est pas pour me déplaire », ajoutai-je en souriant pour plaisanter sur l'image que mes amis avaient de moi. Arrivé à Stockholm, c'est encore un vieux Suédois qui conversa avec moi dans un bar, à croire que je n'intéresse plus les jeunes. Il était parti de sa maison de retraite, car il ne voulait plus fêter son anniversaire. Lui aussi ne voulait plus des conventions de la multitude, me dis-je en moi-même. « Tiens, ça me rappelle un roman », dit une amie. Je m'empressai d'enchaîner sur le périple que nous fîmes. L'île Gotland, Göteborg, puis Malmö, où j'ai pris l'avion pour Paris. Et me voilà. Il est tout de même temps de rentrer, regarder l'état du jardin. Effectivement, mes amis ne purent faire autrement que de reconnaître qu'il était devenu une jungle. Mon retour leur laissa une impression mitigée. À leur départ, j'entendis quelques échos au bord du trottoir depuis « Oh, ça lui a fait du bien ce voyage !» jusqu'à « Il ne nous a pas vraiment montré son enthousiasme, c'est bizarre !» Maintenant, je devais passer aux choses sérieuses. Je me hâtais d'aller à la bibliothèque. La bibliothécaire contrôla mes retours de romans. Elena Ferrante, Robert Zetaler, André Courneuf, Jonas Jonasson, le Suédois. « C'est bon, mais il y a un petit problème. Vous êtes en retard de plus de 2 semaines. Ça fera 10 euros de pénalité. » Je m'attendais à un peu d'indulgence, mais 10 euros pour un tel voyage, pour avoir la chance d'imaginer une autre vie, Ce n'est vraiment pas cher. Chacun peut se payer un moment de solitude. Nietzsche avait raison.
Nietzsche a toujours raison, même quand il a tort. Gérard, est-ce que tu pourrais nous donner les références des 4 ouvrages que tu mentionnes dans ton voyage imaginaire en solitaire ?
Ce sont les 4 livres de mon ami simulateur qui lui ont permis de voyager sans se déplacer. Il s'agit d'Elena Ferrante, l'amie prodigieuse, de Robert Zettaler, l'Autrichien, une vie entière, de Andrei Kournov, qui a écrit Vilnius, Paris, Londres, et de Jonas Jonasson, le Suédois, l'histoire du vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire.
Voilà, merci Gérard.
IDFM, 98FM.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial Solitude. Hélène, notre psy attitrée, tu voulais, je crois, nous proposer un titre musical approprié.
Oui, je pensais à Alain Souchon, Ultra Moderne Solitude.
Ah, c'est pas mal ça, on écoute.
Pourquoi ces rivières, soudain sur les joues qui coulent dans la fourmilière, c'est l'ultra-moderne solitude. Ça se passe à Manhattan dans un cœur, il sent monter une vague. J'ai des amis sans bye bye, du soleil, un amour, du travail.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial chronique qui a pour thème ce mois-ci la solitude. Alors, il est temps de retrouver la nouvelle chronique de celle qui aime faire des autopsies, boire du Pepsi et dire des inepties. Hélène Souhaud, psychanalyste, qui nous présente l'œil du psy en solo aujourd'hui, évidemment. Rendez-vous compte.
La solitude est au cœur de l'expérience existentielle. On est seul, on meurt seul, on souffre seul. Chacun est lancé dans l'existence et doit se débrouiller avec ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une autre expérience existentielle au moins aussi fondamentale, le lien à autrui. On est seul, mais d'une mère qui généralement prend soin de nous au mieux qu'elle peut. On meurt seul, mais entouré de soignants et de proches compatissants à qui on peut dire combien ils ont compté pour nous. Là aussi, je décris le cas idéal. Entre ces deux points de passage, on vit plus ou moins en lien avec autrui. Autrefois, les rites sociaux et les sacrements religieux régulaient les vies de façon rigide et indiscutable. La liberté et l'épanouissement individuel n'étaient pas la priorité. Le maillage social était serré. Chacun avait un rôle à jouer selon son milieu, le métier de ses parents, sa place dans la fratrie. Un fils militaire, un fils ecclésiastique, un fils pour reprendre l'exploitation familiale était par exemple un destin tout tracé pour les garçons d'une famille de propriétaires terriens dans la France du XIXe siècle. Aujourd'hui, nous vivons dans une société urbaine, laïque, individualiste. Les places et les liens ne sont plus écrits à l'avance. La liberté de choisir son destin a un coût. Il faut s'affirmer, conquérir une place, tresser des liens avec ses amis, son conjoint si on en a un, qui ne se présente plus tout seul dans un mariage arrangé comme autrefois. Statistiquement, le célibat augmente. Il est passé de 6% en 1962 à 14% en 2007 et il bondit à 32% pour les plus de 60 ans. Mais le couple est-il l'unique horizon indépassable du bonheur ? Le jeune citoyen éduqué, charmeur, pas prêt à s'engager, est un stéréotype bien connu. George Clooney, aujourd'hui en couple, en était peut-être le représentant le plus connu. Cette tendance, là aussi parmi une population urbaine aisée et éduquée, apparaît aujourd'hui explicitement chez les femmes. Lorraine Bastide, podcasteuse féministe, vient de sortir son livre aux éditions Alary, intitulé « Enfin seule », ayant pour sous-titre « Il est temps de transformer notre regard sur la solitude des femmes ». Emma Watson, l'actrice qui incarnait Hermione dans Harry Potter, a aujourd'hui 35 ans et elle refuse de voir le couple comme horizon indépassable de l'épanouissement personnel. Je la cite « Je pense que c'est une violence et une cruauté qu'on leur impose aux gens, surtout aux jeunes et encore plus aux femmes, en leur faisant croire qu'elles n'ont pas de valeur ou qu'elles ont échoué si elles n'ont pas forcé leur vie jusque-là. » Elle dit être en couple avec elle-même. Miley Cyrus ne dit pas autre chose dans son type Flowers. Je vous traduis en français, je peux m'acheter des fleurs et écrire mon prénom sur le sable. On parle donc de célibat choisi. Le célibat subi est moins glamour. Il est souvent vécu dans la souffrance et dans la honte. Les représentations culturelles irréalistes de type conte de fées sont souvent incriminées car elles donnent une représentation déformée du couple. Cette problématique est parfois l'enjeu d'une thérapie. Le travail consiste alors à travailler sur l'estime de soi et sur sa capacité à créer des liens. Le lien parent-enfant est le premier apprentissage du lien. On transmet à nos enfants nos talents et nos névroses. On transmet des compétences relationnelles plus ou moins développées. Le lien, c'est le mot qui revient souvent dans mes chroniques. Pour le psychanalyste et écrivain Irving Mialom, mon mentor, le lien, c'est l'alpha et l'oméga de toute existence. D'ailleurs, une thérapie, ce n'est pas autre chose qu'un lien contractuel entre un patient et un professionnel du psychisme. Ce ne sont pas tant les connaissances scientifiques du thérapeute qui soignent, mais sa compétence dans l'art de tresser un lien spécifique, aussi appelé alliance thérapeutique. Expérimenter ce lien bienveillant, sans piège, ce lien uniquement tourné vers les besoins du patient, c'est ça le véritable ressort de la thérapie. Ce qui se joue avec le thérapeute, en petit et dans la sécurité du cabinet, c'est la même chose que dans la vraie vie, à la différence près qu'on peut identifier et nommer ce qui se joue, se tromper, recommencer, permettre à ses neurones d'explorer de nouveaux chemins inexplorés, loin des autoroutes neuronales usées jusqu'à la corde, ces postures réflexes où on retombe toujours dans les mêmes écueils. L'immense majorité des thérapies consiste donc à travailler sur le lien qui fait souffrir dans des relations nocives, désaccordées, perverses, le lien rompu dans la séparation amoureuse ou dans la rupture amicale ou dans le deuil. J'en arrive donc au sujet véritable de cette chronique, le déficit de lien, appelé aussi solitude. La solitude objective s'installe quand les circonstances de la vie rompent les liens importants, indépendamment de sa volonté, quand la structure familiale comporte peu de liens. Ce qui amène le plus souvent à consulter, c'est la solitude subjective. On peut se sentir seul au sein même de sa famille, de son couple, au milieu de la foule. Il arrive qu'on perde confiance dans sa capacité à établir un lien. Aller vers les autres, c'est prendre le risque d'être incompris, rejeté. Quand sa structure psychique est trop fragile, seules les projections négatives trouvent leur chemin. Je pense à un patient célibataire, sans enfant, fils unique. Il illustre bien cette ambiguïté dans son rapport au lien. Lorsqu'il évoque les meilleurs moments de sa vie, ce sont toujours des moments où il était chaleureusement entouré. Pourtant, quand arrive le mois de septembre et que je lui suggère d'aller faire un tour au forum des associations pour se rapprocher des groupes de randonneurs ou d'amateurs d'histoire, deux activités qu'il aime mais qu'il pratique peu, faute de partenaires et d'émulation, il ne me contredit pas. Oui, oui, c'est une bonne idée, mais il n'y va pas. Le bénéfice potentiel de rencontrer de nouvelles personnes, d'élargir son cercle amical, lui semble moins important que le risque qu'il pense pour courir à sortir de sa zone de confort. L'exploration de la nouveauté n'est envisageable pour lui que s'il est accompagné par un proche. Cela dit, les beaux liens qu'il a su tisser avec ses amis et la solidité de notre alliance thérapeutique constituent une base de sécurité qui, j'espère, lui permettra un jour d'oser partir à l'aventure vers l'investissement de nouveaux liens. Pour terminer cette chronique sur la solitude, je ne saurais trop recommander d'apprendre à goûter sa propre compagnie. Explorer son vécu, devenir son meilleur ami, y voir clair dans ses émotions, ses besoins, ses idées, être un bon partenaire de vie pour soi-même, est le meilleur socle qui soit pour mieux rencontrer l'autre et savoir se mettre à son écoute également. Merci Didier de m'avoir laissé mener cette chronique en solitaire. Ta présence silencieuse était cependant un soutien capital. On peut se sentir seul dans un groupe, on peut se sentir porté muettement par une présence bienveillante.
Merci Hélène, je n'aurais pas mieux dit. Voilà, merci, on te retrouve le mois prochain pour ton œil de psy.
Avec plaisir.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit.
Ben écoutez, notre émission se termine. Donc, merci Michel Vassaufroy-Paret. Merci Gérard. Merci Hélène. Merci Marine. Merci Thierry Leclerc pour tes chansons. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Rendez-vous Compte. Et quant à moi, je vous retrouve aussi dimanche matin dans la matinale de midi pour mon émission NEC plus Ultra consacrée aux expressions d'origine mythologique qui continuent à fonctionner dans notre belle langue française. À bientôt.